Première conférence de la journée du 9 juillet 1986.
C'est bien la privation. Mais une privation qui est vécu dans l'esprit, et non pas une simple privation, comme un fait. Vous voyez bien le problème, j'espère. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? C'est facile de comprendre, puisque nous en avons tous l'expérience. Je crois que personne d'entre nous ne peut dire qu'il ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. Parmi nous, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité. Mais l'orgueil, on le sait tous. C'est le lot commun. C'est vrai que l'orgueil s'oppose à l'humilité. Mais il y a quelque chose de plus profond dans l'orgueil. C'est l'exaltation de son propre jugement, l'exaltation de nous-mêmes, c'est l'exaltation de notre discernement que nous faisons passer en premier. Et l'orgueilleux veut toujours être premier, il ne tolère pas que quelqu'un passe avant. Ça, c'est facile à comprendre. C'est juste l'inverse des effacements de l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, on veut que celui qu'on aime passe devant nous. C'est ce qui caractérise l'amour d'amitié. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il passe devant nous. Tandis que dans l'orgueil, on veut toujours passer le premier. Et dans la grosse vanité, on veut toujours qu'on parle de tout. Peu importe que ce soit en bien ou en mal, mais qu'on parle de nous. C'est ça l'essentiel. Qu'on soit sur la scène, qu'on soit la réalité première sur la scène, que tout le monde peut regarder. Juste l'inverse de la petite balle du bon Dieu en dessous du meuble, qu'on ne voit pas. Alors, l'orgueil, c'est dans la volonté, comme tout péché. C'est un amour déréglé de soi-même. Il y a un amour vrai de soi. Il y a un amour sain et bon de soi. Quand on s'aime, il faut s'aimer, parce qu'il y a en nous quelque chose de bon. C'est notre propre bien. Donc on doit s'aimer. Il y a un amour de soi qui est bon. C'est très important de regarder l'amour de soi. Parce que si on ne s'aime plus, on ne peut plus aimer les autres. La condition pour aimer les autres, c'est de s'aimer. Quand on est dans un état de révolte vis-à-vis de soi, on est dans un état de révolte vis-à-vis des autres. Il y a un amour de soi qui est quelque chose de sain et bon, qui est quelque chose de très fondamental, l'amour de soi. C'est considérer qu'il y a en nous quelque chose de bon. Substantiellement, il y a des qualités, et puis quand même, nous avons une bonne volonté, nous essayons de faire le mieux possible. Mais c'est dans la mesure où il y a cette bonne volonté de faire le mieux possible qu'on s'aime. Quand il n'y a plus la bonne volonté, qu'il n'y a plus que les qualités et qu'il n'y a plus que la substance radicale en nous. Toujours les trois niveaux du bien dont je vous parlais hier. La substance, les qualités, l'ordre vers la fin. Quand vous êtes finalisé vers un bien, l'adoration et la contemplation, ou l'amitié, ou le dévouement, vous vous aimez. C'est la grande façon de redécouvrir un amour pour soi, c'est de se refinaliser. Alors à ce moment-là, on trouve qu'on n'est pas si mal. C'est aussi bien que les autres. Après tout, il y a des des qualités chez les autres, mais il y en a aussi chez nous. Les autres sont intelligents, mais on l'est aussi. Les autres ont bon cœur, mais on l'a aussi. Et ainsi de suite. Donc, on se valorise, comme on dirait au point de vue psychologique. On se valorise, c'est-à-dire qu'on s'aime. La seule manière de se valoriser, c'est de s'aimer. Aimer qui a en nous quelque chose de bien. L'orgueil, c'est l'exaltation de cet amour de soi. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, alors elle s'enflore. Puis au bout d'un certain temps, on sait ce que ça devient. Alors l'orgueil, dans ce qu'il a de plus spirituel, porte sur ce qu'il y a de plus spirituel en nous. Le fondement de notre autonomie, c'est-à-dire notre intelligence, notre jugement. C'est donc l'exaltation de notre propre intelligence. L'orgueil, formellement l'orgueil, c'est l'amour de soi qui porte sur en nous ce qu'il y a de plus fondamental. Ce qu'il y a de plus fondamental en nous, c'est l'intelligence, le discernement par où nous sommes capables de juger les autres, de discerner ce qu'il y a de bon et de mauvais. Alors, l'orgueil consiste en l'exaltation de son propre jugement et de considérer que son propre jugement dépasse tous les autres. Et par le fait même à ce moment-là, vous n'écoutez plus personne. Ça, c'est la conséquence. C'est comme ça, du reste, que psychologiquement, vous remarquez quelqu'un d'orgueilleux. C'est qu'il n'écoute jamais. Était réputé pour être extrêmement vaniteux. Il s'occupait de politique. C'était quelqu'un du reste qui avait une certaine réputation. Et qui était assez spécial. Alors, sitôt la guerre, il était faire un petit voyage en Europe, c'est-à-dire en Italie, en Espagne. Vis-à-vis de tel ou tel grand personnage politique, je ne dis pas. On lui demandait, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, il est très bien, il sait écouter. C'est-à-dire, il savait, il l'avait écouté, c'est ça que ça voulait dire. Il sait écouter. Et c'est très vrai que c'est le signe, ordinairement, de l'orgueil. C'est que quelqu'un n'écoute plus. Il ne sait plus écouter. Parce qu'il est tellement plein de lui-même qu'il n'y a plus de place pour l'opinion des autres. Il est tellement sûr de lui-même qu'il n'y a plus de place. Alors, il est toujours celui qui affirme. Et qui affirme toujours en se prenant lui-même comme premier. Donc, c'est une volonté d'exaltation, l'orgueil. Volonté d'être premier. On refuse d'être relatif à un autre. On refuse d'être derrière quelqu'un d'autre. On veut être premier. On veut être premier. Et on veut être premier dans le domaine de la plus grande noblesse, c'est-à-dire l'intelligence. Saint Thomas se pose la question, et si c'est intéressant par rapport à l'orgueil, se pose la question, qu'est-ce qui est en nous plus noble, l'intelligence ou la volonté ? Qu'est-ce qui est en nous de plus grand, l'amour ou la connaissance ? C'est une très belle question. Une question analogue à celle du bien et de l'être, ou la vérité. quel est le son? Faut surtout pas. Cet homme a distingué toujours l'intelligence et la raison. La raison, elle raisonne. Tandis que l'intelligence, elle comprend. Il y a des gens qui raisonnent sans rien comprendre. Ça existe. Ils peuvent bavarder, raisonner, écrire des dissertations entières. Ils n'ont rien compris. L'intelligence intus legere, lire de l'intérieur. C'est très beau comme étymologie. Elle est fausse, mais elle est belle. Intus legere, lire de l'intérieur. C'est comme ça que dit saint Thomas. Lire de l'intérieur, c'est regarder de l'intérieur. Un être intelligent ne regarde jamais de l'extérieur. Il regarde toujours de l'intérieur. Il s'efforce de regarder de l'intérieur. Un être pas très intelligent, assez superficiel, il regarde de l'extérieur. Il regarde vite. Un être intelligent arrive à séparer le nécessaire du contingent. Parce qu'il regarde de l'intérieur. Il laisse tomber le contingent. Il regarde l'intérieur. Donc l'intelligence, c'est, si vous voulez, ce qui nous permet de connaître, on dira souvent intuitivement, de pénétrer plus avant. Donc ce n'est pas le raisonnement. Et la volonté, pour saint Thomas, c'est la faculté qui nous permet d'aimer. C'est depuis Descartes que la volonté se distingue du cœur et que la volonté sera la faculté d'efficacité. Ça, c'est depuis Descartes. Pour saint Thomas, la volonté est premièrement une capacité d'aimer. Et parce que c'est une capacité d'aimer, c'est ensuite une capacité d'efficacité. Et l'amour est avant l'efficacité. Tandis que pour Descartes, l'amour est au niveau sentiment, au niveau passion, et la volonté est au niveau d'efficacité. Et c'est terrible, au fond, ce qu'a fait Descartes. Parce qu'à partir de Descartes, on n'est plus vraiment volontaire. Ça explique beaucoup de choses pour la France. De grands sentiments, ils n'ont plus une véritable volonté. Ils ne savent pas que l'amour est premièrement une volonté d'aimer. Ils ramènent l'amour uniquement au sentiment. Ça explique tous les divorces. Parce que quand vous êtes uniquement une question de sentiment, ça peut changer. L'année suivante, la sensibilité s'use. La volonté ne s'use pas. Et une volonté d'aimer va toujours plus loin. Tandis qu'une question de sentiment, c'est extérieur. Alors ramener l'amour au sentiment, c'est terrible. C'est supprimer l'amour. Tandis qu'au contraire, quand vous comprenez que l'amour est premièrement spirituel, et que l'amour est donc volontaire, vous comprenez qu'il y a une volonté d'aimer quand on veut aimer. Et que cette volonté d'aimer a une spontanéité beaucoup plus profonde que la spontanéité du sentiment. Ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui nous prend dans ce qu'il y a de plus intime en nous. Notre cœur profond. Notre cœur profond, c'est notre volonté. Mais le langage français est très cartésien, parce qu'il s'est forgé à partir de Descartes. Là-dessus, dans le langage français, on dit un homme généreux, un homme de cœur, et un homme de volonté. On dit cette personne, oh, elle est extraordinaire, elle a une volonté, mais elle manque un peu de cœur. Elle est une efficacité prodigieuse. Vous lui confiez quelque chose, vous êtes sûr que ça va réussir. Mais ça manque un peu de cœur. Tandis que c'est une personne où elle a un cœur merveilleux, mais elle manque de volonté. Ça, c'est tout à fait contraire à la réalité. C'est le langage à partir d'une philosophie fausse, celle de Descartes, qui a imprégné le langage d'un pays et donc la culture. En fait, même. Mais il y a toujours des... À partir de toute culture, il y a toujours des cités, il y a toujours une philosophie qui est à la racine, plus ou moins directement, qui est à la racine. C'est très curieux de voir comment Descartes, qui est quand même le premier philosophe français qui a écrit dans la langue vulgaire, et puis que de fait, il y a tout ce stoïcisme chez Descartes, parce que ça c'est du stoïcisme. Chez le stoïcien, la volonté est premièrement une volonté de domination. Une volonté d'efficacité. Les stoïciens n'aiment pas beaucoup. Mais ils sont des hommes réalistes dans le sens de l'efficacité. Ils ne sont pas du tout réalistes dans le sens de l'amour. Ce sont des hommes politiques, les stoïciens. Ce qu'il y a de plus grand pour le stoïcien, c'est l'homme politique. C'est pas le contemplatif. Il n'y a plus de contemplation. Il n'y a plus d'amour. C'est pas l'amitié. Non, c'est arriver à réaliser une œuvre. Alors ça, c'est très important. Vous voyez, donc, quand je parle, je dis ça, c'est parce que nous employons des mots que Descartes a employés. Il les employait dans un autre sens. Alors, quand on parle de volonté, dans un langage parfaitement réaliste et aristotélicien et thomiste, la volonté, c'est l'appétit spirituel. L'intelligence, ce n'est pas la raison. L'intelligence, c'est ce qui permet in tous les gérer. Lire de l'intérieur. La volonté regarde le bien. L'intelligence regarde le vrai, ce qui est l'être. Alors saint Thomas pose la question, c'est une très belle question du reste. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est le plus important? L'intelligence ou la volonté? Mais si on avait le temps, je dirais 3 minutes de silence, écrivez sur un petit papier ce que vous considérez comme premier. Puis je ramasserai les papiers. Je ferai un vote, un suffrage universel, pour savoir si l'intelligence doit passer avant la volonté ou la volonté avant. Et c'est très important ça, parce que je crois que c'est le fond de toute personnalité. Il y a des personnalités plus volontaristes, des volontés, des personnalités plus intellectuelles, c'est sûr. Et chacun d'entre nous, nous avons un dosage différent d'efficacité, d'amour, d'intelligence, de raison. Je crois qu'on a les quatre. Vas-y. Si on regardait attentivement, on verrait le point de vue amour, efficacité. On verrait intelligence, raison, raison logique. Alors, l'équilibre des quatre forme une personnalité harmonieuse, ce que nous sommes tous. Mais quand ce n'est pas équilibré et harmonie, vous avez l'efficacité. Des gens d'efficacité, des robots, ils sont terribles, ils écrasent tout. Le tout, c'est que ce soit réalisé. Vous avez des gens qui ont une logique implacable, bêtes comme tout, ils n'ont rien compris, mais d'une logique implacable, ça doit être comme ça. Puis vous avez l'inverse, des gens merveilleux au point de vue affectif, mais affolants ils réaliseront rien dans leur vie. Puis des gens intelligents qui raisonnent pas assez. C'est très cru. C'est un fait alors. Faites ce petit examen de conscience. Troisième jour de la session. C'est le jour de l'examen de conscience. Philosophique. Les stoïciens demandaient un examen de conscience tous les jours. 10 minutes de méditation. Si on faisait 10 minutes de méditation philosophique tous les jours, on deviendrait très vite intelligent. Et alors là, il y a quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Quel facteur en nous de affectif. Alors évidemment, il y a des gens purement passionnels, ça existe. Alors c'est à ajouter, mais il y a des gens dont l'affectivité n'est pas spirituelle, mais l'affectivité est purement les passions, les instincts. Ce sont des affectifs. Ils sont ou des affectifs terribles de l'irascible. Parce que là encore, la passion de concupiscence et la passion. Vous voyez alors, toute la diversité part de l'homme. Et c'est très vrai. Et il faut analyser comme ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui domine en nous. Alors, saint Thomas pose la question. Et il dit cette chose très belle. L'intelligence a une noblesse que la volonté n'a pas. Donc, c'est au plan structure, au plan détermination, au point de vue de la forme, c'est l'intelligence qui passe avant. Tout notre être est structuré par la connaissance et par l'intelligence. Au point de vue de noblesse, la noblesse, c'est la qualité pour saint Thomas. Donc, c'est la forme, c'est la structure d'un être. L'intelligence donne une structure à une personne. La volonté ne donne pas de structure. Tandis que l'intelligence, elle donne une structure. Mais saint Thomas ajoute que du côté, alors, de l'exercice, du côté de la causalité, la volonté passe avant. C'est très intéressant par ça. Donc il n'y a pas une priorité absolue. Il y a une priorité dans un domaine. Alors, dans un domaine de la détermination, c'est l'intelligence. Et ça, c'est, je crois qu'on peut l'expérimenter assez facilement. Et du côté de l'exercice, c'est la volonté qui passe avant. Du côté de la causalité, du côté des réalisations, c'est l'amour. Donc c'est la volonté. Tandis que du côté de la structure, c'est l'intelligence. Alors saint Thomas fait ce petit raisonnement à partir de là. Quand il s'agit des réalités inférieures à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer. Quand il s'agit des réalités supérieures à nous, l'amour va plus loin que la connaissance. Et donc, il faut avant tout les aimer. Je reprends, parce que c'est très important, ça, comme discernement dans notre vie. Quand il s'agit des réalités inférieures à nous, le petit chien, le petit chat, il vaut mieux les connaître que les aimer. Ayez la connaissance du petit chat, c'est très très bien. Mais si vous aimez trop le petit chat, c'est très ennuyeux. Parce que vous ne pourrez plus vous passer du petit chat. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Au bout d'un certain temps, vous aurez la physionomie d'un petit chat. Ça existe, ça, vous savez, dans les trains, quand vous regardez quelqu'un qui a un petit chien qui est dans l'autre. Regardez la physionomie du chien et la physionomie de la personne. Vous voyez qu'il y a une ressemblance, c'est très curieux. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors il y a quelque chose, une espèce de quand il s'agit des réalités supérieures à nous, Dieu est le prochain. Le prochain, c'est celui que nous considérons comme supérieur à nous. Parce que dans tout homme, il y a quelque chose que je n'ai pas et qui est supérieur à moi. Et ça, c'est le prochain. C'est quand vous découvrez dans celui qui est autre quelque chose qui vous dépasse. À ce moment-là, vous pouvez l'aimer comme un pauvre, comme le prochain. Viens, Dieu est le prochain. Il vaut mieux l'aimer que de le connaître. L'amour va plus loin, autrement dit. C'est par l'amour que je serai plus proche de lui. Ça, c'est capital de comprendre ça. J'allais dire, c'est l'hygiène fondamentale de l'esprit. L'esprit implique intelligence, implique volonté. Bon, si nous prenons conscience de ce que c'est que notre intelligence et notre volonté, nous sommes en harmonie profonde dans la mesure où nous respectons ces deux axes. Il vaut mieux connaître les réalités qui sont inférieures à nous et aimer les réalités qui sont supérieures à nous. Oui, c'est très important parce que ça nous permet d'accepter les dépendances. On accepte d'être dépendant de quelqu'un qu'on considère comme supérieur à nous. Au plan philosophique, je ne parle pas au plan religieux. Au plan religieux, les supérieurs tiennent la place du Christ. Donc ils sont toujours supérieurs à nous. En tant qu'ils tiennent la place du Christ. Mais si je ne vois plus le point de vue religieux, je regarde le point de vue humain. Je dis ce supérieur, il a moins d'expérience que moi, il est plus jeune. Qu'est-ce qu'il a fait, moi, tout ce que j'ai fait? Alors à ce moment-là, redevient la difficulté de dépendance à l'égard de quelqu'un qui est plus jeune que nous. Mais si on prend le point de vue surnaturel, c'est tout à fait différent. Parce qu'il est mandaté par le Christ vis-à-vis de nous. Alors comprenons qu'au plan philosophique, on accepte de se soumettre à quelqu'un qui est pour nous notre bien. Donc, qui est quelqu'un qui nous dépasse. Tandis que se soumettre à quelqu'un qui est inférieur à nous, c'est toujours une aliénation. Enfin, c'est le principe que donne Plotin. Et c'est très joli, ça. C'est un principe qu'on doit tout le temps se rappeler. Accepter de se soumettre à un être plus grand que nous, c'est nous libérer. Se soumettre à un être qui est inférieur à nous, c'est une aliénation. C'est un principe merveilleux. Des conditions pour la théologie de libération, par exemple. C'est quand on comprend ça, voilà. C'est intelligent. C'est une distinction qui est capitale. Bien, ça dépend de cela, vous voyez. Fondamentalement, c'est les lois de l'intelligence et de la volonté. Donc ça, c'est très important. Et ça correspond au lien qui existe entre l'être et le bien. L'être est premier du côté de l'intelligibilité, donc du côté de la détermination, de la spécification. Et le bien est premier du côté de la causalité de l'exercice. Donc vous retrouvez l'ordre entre le bien et l'être et entre l'intelligence et la volonté. Il y a un ordre analogique. C'est quelque chose de semblable et en même temps quelque chose de très divers. Il faut saisir cela pour comprendre ce que c'est que l'orgueil. Autrement, on ne comprend pas ce que c'est. et l'orgueil nous empêche de nous soumettre à quelqu'un. Puisque par définition, l'orgueil consiste à nous regarder comme le bien suprême. Je suis à moi-même mon propre bien. Cette espèce d'égocentrisme radical, mais qui va beaucoup plus loin que l'égocentrisme. Puisque j'ai conscience que je suis pour moi mon bien suprême. Rien n'est plus proche de moi que moi. Si rien n'est plus proche de moi que moi, rien n'est meilleur pour moi que moi. Je ne me suis jamais entendu aussi bien avec une personne qu'avec moi. Puisque je suis toujours d'accord avec moi. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'opposition. Saint Paul nous dit qu'il est en nous deux hommes, parce qu'il est humble. Mais l'orgueilleux considère qu'il n'y a rien de mieux que lui. Et qu'en lui, il trouve tout. Évidemment, s'il y avait deux personnes comme lui, il serait très ennuyeux. Parce qu'il ne se reconnaîtrait pas dans l'autre. C'est très glorieux. C'est la grande manière de corriger l'orgueilleux. Il sait très bien, mais s'il y avait une autre personne exactement comme vous, alors il dirait c'est impossible. S'il y avait une autre personne exactement comme vous, mais vous devriez l'aimer comme vous. Vous devriez la considérer aussi intelligente que vous, aussi aimante que vous. Alors à ce moment-là, vous devriez choisir entre l'autre et vous. Et l'autre vous apporterait quelque chose puisqu'il est autre que vous. Et il a toutes les qualités que vous avez. Alors vous seriez deux. Et en étant deux, vous seriez plus qu'un. Et donc votre orgueil sera obligé de tomber. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui considère qu'en lui, il y a bien suprême. Alors, comprenons bien. En lui, dans son intelligence, dans sa manière de regarder les choses. C'est donc l'exaltation de son propre jugement. L'orgueilleux, c'est celui qui exalte son propre jugement et qui considère que ce qu'il dit, que ce qu'il pense, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Jamais quelqu'un n'a pensé aussi bien que moi. Jamais quelqu'un n'a dit des choses aussi intelligentes que moi. C'est très gros, ça se dit pas, hein, mais ça se pense. Jamais quelqu'un dira oh, ça, c'est évident, il dira écoute, regarde le bout de ton nez, tu verras bien qu'il y en a qui ont un nez plus grand que toi. Regarde bien, quoi, c'est. Mais. C'est toujours la bête qui est tapie dans l'ombre. Et c'est sous-jacent. C'est inconscient. Et c'est une lame de fond. Il y a en nous, au point de vue théologique, nous disons, la concupiscence de la vie. Et c'est cette poussée orgueilleuse en nous de vouloir tout le temps considérer comme premier et de considérer que c'est notre manière de connaître, notre manière de voir qui est première, la plus intelligente. L'humilité consiste au contraire de voir que nous avons des qualités et que les autres en ont aussi et que sur certains points les autres ont des qualités que nous n'avons pas. L'orgueilleux étouffe son voisin, parce qu'il n'y a que lui. L'un exalte son voisin. C'est pour ça que c'est si agréable de travailler à côté de quelqu'un qui est humble, parce qu'on se croit intelligent. Parce que quelqu'un qui est humble est tout le temps à dire, mais oui, fais-le, c'est bien ce que tu fais, tu sais, tu fais beaucoup mieux que moi. C'est ça, c'est l'un. Il découvre toujours dans l'autre quelque chose que lui n'a pas. En toute vérité, hein, pas en flatterie. Ça, là, serait une fausse humilité. Et surtout pas que l'autre fasse quelque chose. Parce qu'on considère que tout est à nous. Qu'on a un droit sur tout. Alors, comprenons. L'orgueil, c'est un acte vital, spirituel. Donc il y a quelque chose de positif dans un acte d'orgueil. Je m'exalte. C'est le pan qui fait la roue. Je m'exalte. Je me regarde. Et je désire que les autres me regardent. Mais je me regarde moi-même. C'est déjà suffisant. Le véritable orgueilleux ne s'occupe pas tellement des autres. Il est tellement épris de lui-même. Tellement épris de lui-même. Car lui, mais le vaniteux s'occupe des autres. Mais le vaniteux, c'est beaucoup moins orgueilleux. Il n'est pas assez intelligent pour être orgueilleux. Tandis qu'il faut déjà une certaine dose d'intelligence pour être orgueilleux. Parce que si vous n'avez pas très intelligent, alors vous serez vaniteux. Alors c'est le dindon qui fait la roue. Vous avez déjà vu des pans qui font la roue et puis des dindons. Il faut voir ça, parce que dans la nature, ça admire. Le pan qui fait la roue, c'est grand. Le dindon qui fait de la roue. On a envie de rire. Et le vaniteux, quand il fait la roue, le vaniteux, bah, regarde-toi, c'est pas grand, c'est pas très fameux, c'est... attention, non, on a envie de prendre une glace, puis de dire, ah, regarde-toi. Tandis que dans l'orgueilleux, pas du tout. L'orgueilleux, il y a quelque chose de l'intelligence. Il faut une grande intelligence pour être orgueilleux. Il y a une matière nécessaire à l'orgueil. C'est une grande intelligence. Heureusement que l'homme n'est pas très intelligent. C'est pour ça que c'est très rare qu'il y ait de vrais orgueilleux. Il y a des quantités de vaniteux, surtout au plan politique. Des quantités. C'est un amour qui nous porte sur l'exaltation de notre propre intelligence. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'autre que nous, mais c'est nous-mêmes. C'est notre propre vie intellectuelle que nous exaltons et que nous essayons d'exalter jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, en essayant de voir toutes les virtualités qui sont impliquées dedans. Je crois
ça que l'humilité pousse à aller plus loin. La véritable humilité. Pas la caricature humilité. Parce que la caricature de l'humilité, on sait très bien ce que c'est. Psychologie, bon. C'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est une caricature d'humilité. Et derrière, ça cache un orgueil fou. Ou une grosse vanité, plus exactement. Une grosse vanité. Ce qu'on est. Alors il y a ce petit complexe d'infériorité, ou un gros complexe d'infériorité. Qu'est-ce qui caractérise l'orgueil? C'est le désordre qui existe, puisque à la place d'aimer quelqu'un qui est supérieur à nous et qui est capable nous apporter quelque chose et de nous agrandir, d'aimer le prochain, l'homme, l'ami, ou d'aimer Dieu. Ce sont nos finalités, les deux grandes finalités de l'homme, l'ami et Dieu. En aimant l'ami et en aimant Dieu, je me grandis moi-même, puisque je me lie personne plus grande que moi, à une personne supérieure à moi. Tandis que dans l'orgueil, je refuse ce dépassement et je m'exalte moi-même. Et donc il y a un désordre fondamental, c'est de se mettre à la place de Dieu, c'est de se mettre à la place du prochain. Il n'y a plus que nous. Et c'est nous uniquement que nous regardons. C'est cette propre exaltation qu'il y a dans l'orgueil. Il y a donc un désordre. S'il y a un désordre, il y a la privation d'un ordre. Qu'est-ce que c'est qu'un désordre? C'est la privation d'un ordre. Après, le désordre des casseroles. On les a nettoyés, on les a mis tous les unes au-dessus des autres. C'est un beau désordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y a une privation d'un ordre. Quand vous êtes en présence de choses multiples, où il y a une certaine unité, la qualité de l'unité dans la diversité, c'est l'ordre. Les choses matérielles ont besoin d'être ordonnées quand elles sont diverses pour maintenir dans la diversité une certaine unité. Et l'unité dans la diversité, c'est l'ordre. Et l'ordre fait toujours appel à une mesure. De fait, l'orgueil implique intelligence et volonté. Il y a diversité, il y a multiplicité, il y a au moins intelligence et volonté, il y a aussi l'imagination, il y a aussi les passions, il y a aussi l'instinct, tout ça est présent. C'est un acte humain complexe, l'orgueil. C'est pas du tout un acte humain simple. Il y a un désordre dans l'orgueil. Privation de l'ordre. Alors, quelle est la privation de cet ordre? C'est que quand il s'agit des réalités spirituelles, de l'intelligence et de la volonté, l'intelligence est capable de s'ordonner à Dieu. L'intelligence est capable de découvrir la primauté de Dieu. Et que l'esprit comme tel est immédiatement en référence à Dieu. L'esprit, quand il vit, se découvre comme au-delà de toutes les réalités temporelles. Et donc comme n'ayant comme mesure voyez où se loge la privation dans l'orgueil. Et c'est cela qui fait que l'orgueil est un mal. Parce qu'il me prive de l'ordre le plus fondamental qui soit, un esprit qui remonte jusqu'à sa source, jusqu'à Dieu. Il y a donc une brisure à l'égard de cet ordre fondamental qu'est l'esprit relié à Dieu. Et à ce moment-là, l'esprit se donne à lui-même sa propre mesure. Et l'esprit faisant ça, se met dans le désordre. C'est un désordre spirituel. Et ce désordre spirituel dépasse tous les autres désordres, puisque c'est un désordre fondamental et premier. C'est un désordre relativement à Dieu, relativement à la vérité et à l'amour. Il y a un double désordre. Dans l'orgueil, il y a un double désordre. Il y a un désordre par rapport à la vérité et il y a un désordre par rapport à l'amour. Ces deux désordres se tiennent, puisque l'orgueil, c'est dans l'ordre pratique. Il n'y a pas d'orgueil spéculatif. C'est dans l'ordre pratique, je suis orgueilleux. C'est dans l'ordre éthique. Puisque c'est volontaire. Il n'y a pas d'orgueil spéculatif. Ça n'existe pas. Au point de vue spéculatif, on cherche la vérité. Mais vous pouvez vous servir d'une recherche spéculative pour être orgueilleux. Mais l'orgueil est toujours pratique. Donc c'est dans une connaissance affective. Et dans cette connaissance affective, il y a donc un double désordre par rapport à l'amour et par rapport à la vérité. Voyez comment l'orgueil qui psychologiquement apparaît comme contraire, apparaît comme quelque chose de positif, qui s'oppose au bien, qui s'oppose à l'humilité, qui s'oppose aux exigences du bien. Comment l'orgueil en réalité, profondément, formellement parlant, avec la plus grande précision, est un mal parce qu'il implique une privation. À l'intérieur de l'acte volontaire, de l'acte spirituel, vous redécouvrez une privation. Et cette privation qui fait que l'orgueil, cet acte spirituel, est mauvais. Il y a le mal, parce qu'il y a une privation. Vous arrivez donc à voir que le mal, c'est bien une privation. Une privation d'une forme, d'une qualité, ou la privation d'un ordre. C'est donc deux privations tout à fait différentes. Et la privation d'un ordre par rapport à ma propre fin, par rapport à mon propre bien, c'est la destruction de l'ordre. Le mal, privation de l'ordre spirituel, quand il s'agit du mal, dans ce qu'il y a de plus absolu, qui est une destruction de ce qu'il y a de plus foncier en moi, l'ordre vis-à-vis de mon bien. Donc, qui détruit ce qui est en moi de meilleur. Alors, j'espère que maintenant, vous pouvez mieux comprendre comment, entre le mal privatif et le mal positif, il y a quelque chose de commun, la privation. Alors ceci vous permet de répondre, oui, c'est bien la privation qui est la négation la plus fondamentale après la contradiction. Il n'y a pas de mal au niveau de la contradiction. Et vous comprenez C'est donc une privation consciente qui implique un détournement. On se détourne volontairement de son propre bien. Et en faisant cela, en se détournant, on se prive de sa fin. On se prive de l'ordre vers sa fin. On se prive donc de ce qu'il y a de plus positif en nous, être ordonné vers le bien. Vous voyez donc que le mal